Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Quel est ton niveau d'intimité avec Jésus? C'est le titre du message. Quel est ton niveau d'intimité avec Jésus? Quelle intimité as-tu avec Jésus? Quelle intimité penses-tu avoir avec Jésus? Entre l'intimité que nous pensons avoir et ce qu'elle est réellement, il peut y avoir un écart. On peut la surévaluer, on peut la sous-évaluer. De toutes les manières, il n'y en a qu'un seul qui peut nous dire la qualité de l'intimité que nous avons avec lui, c'est Jésus lui-même. Amen. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu. Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Je te prie de te manifester. Je te prie de glorifier Jésus au milieu de nous, dans ces instants. À travers la parole qui va être annoncée, je prie pour que tu touches les cœurs ce soir, Seigneur. Que l'huile coule, que ta grâce coule. Amen. Alléluia. Le chant que nous avons pris tout à l'heure, ébloui, va très bien avec la prédication de ce soir. Je veux habiter près de toi. C'est ça l'intimité avec Jésus. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, versets 1 et 2. Apocalypse, chapitre 4, versets 1 et 2. Je lis dans la version second 1910. Apocalypse 4, versets 1 et 2. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez qui a écrit le livre de l'Apocalypse ? C'est l'apôtre Jean. C'est pas n'importe quel apôtre. C'était le disciple que Jésus aimait. Un disciple qui avait une relation très particulière, très forte avec Jésus. Celui qui dormait sur sa poitrine. C'était un intime de Jésus, un véritable intime de Jésus. Et alors qu'il se trouve sur l'île de Patmos, Jean a une vision. La voix de Jésus l'appelle. Jésus lui parle. Christ lui apparaît et lui permet de connaître une grande révélation. Il va recevoir une très grande révélation. Jésus lui donne la prophétie sur les sept églises de l'Asie mineure. C'est Apocalypse, chapitre 1 à 3 de mémoire. C'est la première partie de la révélation. Jésus lui donne cette révélation-là. C'est déjà une grande révélation et c'est déjà une formidable expérience. Et peut-être qu'après cela, beaucoup se seraient satisfaits et auraient dit « J'ai reçu une grande révélation de la part de Dieu. J'ai déjà beaucoup reçu de la part de Dieu. » Et peut-être il aurait pu après ça s'endormir, peut-être il aurait pu après ça aller vers d'autres choses, d'autres occupations. Mais c'est la seconde fois qu'il entend la voix de Jésus. La première fois, il lui a révélé cette église. Et là, c'est la deuxième fois que la voix l'appelle, que la voix lui parle. C'est la voix de Jésus qui lui dit maintenant, je relis, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Jean était déjà à un niveau d'intimité très élevé avec Jésus. Et malgré qu'il soit déjà à un niveau d'intimité très élevé, il y avait encore un niveau supérieur. L'Esprit lui dit, monte ici. Quand tu es déjà très haut, tu peux encore monter. Il était déjà très haut, mais il pouvait encore monter. Il était déjà très haut, mais il y avait encore plus. Monte ici. L'Esprit lui dit, monte ici. Et je voudrais dire que dans le domaine spirituel et dans notre relation avec Jésus, parfois nous pouvons nous contenter de ce que nous avons. Et si nous nous contentons de ce que nous avons dans notre relation avec Jésus, c'est le risque de stagner. Et c'est le risque de manquer des progressions. C'est le risque de ne pas tout connaître de ce qu'il y a à connaître dans la relation avec Jésus. Et parfois, les bonnes choses sont les ennemis des choses meilleures. Une bonne intimité avec Jésus peut être l'ennemi d'une meilleure intimité avec Jésus. Si nous nous contentons de ce que nous avons, si nous nous contentons de ce que nous connaissons ou de ce que nous expérimentons. Jean, lui, avait connu de grandes expériences. Il avait vécu, il avait partagé 3 ans et un peu plus de la vie de Jésus. Ils avaient vécu des grands moments ensemble. Il a vu des miracles, il a vu la croix. Jean a vu de grandes choses. Il était déjà dans une dimension spirituelle très élevée. Mais là, il vient de recevoir une première révélation et il est toujours attentif. Il est prêt à recevoir le reste de la révélation. Et là, Jésus va lui dire, monte ici. Il va monter et il va lui révéler beaucoup d'autres choses. Il va lui montrer le trône. Jean va voir le trône. Il va voir aussi tout ce qui se passe autour du trône. Il va lui montrer les quatre êtres vivants qui adorent Dieu. Il va lui montrer les 24 vieillards. Il va lui montrer les sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Et tant de choses encore. La somme des révélations que Dieu a données à Jean dans l'Apocalypse, ça dépasse toute imagination. C'est peut-être une des plus grandes révélations, je ne sais pas si c'est la plus grande, mais une des plus grandes révélations que Dieu ait donné un jour à un homme. À un homme qui était déjà à un très haut niveau d'intimité avec Jésus. Et il y a ici un enseignement pour nous tous, je crois. C'est que tant que Jésus n'est pas revenu, nous devons chercher Jésus. Chercher Jésus. Et encore chercher Jésus. Et ne jamais s'arrêter de chercher Jésus. Toujours nous présenter devant lui avec des cœurs assoiffés. Des cœurs assoiffés de sa présence. Des cœurs assoiffés de sa révélation. De sa connaissance. Parce que nous voulons connaître toujours une intimité supérieure avec Jésus. Nous voulons toujours aller vers une dimension supérieure dans notre intimité avec Jésus. Et ce soir, je voudrais parler de trois dimensions dans l'intimité avec Jésus. Trois dimensions. La première dimension d'intimité, ça serait la dimension selon la position. Dimension d'intimité selon la position. Nous allons lire deux passages bibliques. Le premier, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Jean, chapitre 15, verset 15. Jésus parle à ses disciples. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Amen. Et un second passage dans l'Apocalypse encore, au chapitre 22, verset 17. Apocalypse 22, 17. « Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. » En lisant ces versets, nous voyons que nous sommes présentés comme trois niveaux d'intimité. Le serviteur, l'ami et l'épouse. Le serviteur, l'ami et l'épouse, comme ça. Serviteur, ami, épouse. Serviteur étant le plus bas niveau. Jésus dit lui-même, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Alors que les disciples étaient serviteurs. Précédemment, ils s'appelaient serviteurs. Mais Jésus dit, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Un serviteur connaît des choses sur son maître, mais il ne connaît pas le cœur de son maître. Il sait des choses sur son maître. Il sait, par exemple, quel jour il faut tondre la pelouse. Il sait quel jour il faut aller laver la voiture. À quelle heure on sert le repas. Voilà les choses qu'un serviteur sait de son maître. Mais le serviteur ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de son maître. Il ne le sait pas. Il est là pour travailler en échange d'une rémunération. Voilà le niveau de la relation. Et ce n'est pas vers le maître que le serviteur se tourne s'il a besoin de réconfort, s'il a besoin d'écoute, s'il a besoin de soutien. Ce n'est pas ce genre de relation. Le niveau de serviteur, c'est quand Dieu t'utilise pour son œuvre. Dieu t'utilise pour son œuvre et ça te suffit. Dieu t'utilise pour son œuvre et ça te suffit. Et tu ne cherches pas plus parce que tu n'as pas besoin de plus. Ou peut-être parce que tu crois que ça suffit aussi à Dieu. C'est un peu l'exemple d'Aaron. Aaron était serviteur de Dieu. Il était même souverain sacrificateur. Il avait une haute fonction dans le service, dans le sacerdoce. Mais il ne connaissait pas le cœur de Dieu comme Moïse pouvait connaître le cœur de Dieu. Aaron, c'est un homme qui pouvait faire une idole, c'est un homme qui pouvait faire un veau d'or pour le peuple. Parce qu'Aaron servait le peuple avant de servir Dieu. C'était ce genre de serviteur. C'est pourquoi rester au niveau de l'intimité de serviteur, c'est être plus attaché à son service pour Dieu qu'à Dieu lui-même. Voilà ce qu'est le niveau d'intimité de serviteur. C'est un bas niveau. C'est le plus bas niveau dans la relation, dans l'intimité avec Jésus. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur. Ça veut dire qu'il y a plus que ces niveaux-là et Jésus appelle le niveau supérieur ami. Jésus lui-même dit le niveau supérieur à serviteur, c'est ami. Ami de Jésus, c'est un niveau supérieur. Un ami, c'est quoi? C'est quelqu'un sur qui je peux compter. quelqu'un qui est là pour moi quand j'ai besoin de lui. Je parle d'un véritable ami, un ami désintéressé. C'est ça un véritable ami. Je peux lui parler de plein de choses. Je peux lui parler de mes problèmes financiers, de mes problèmes de santé. Je peux lui parler de mes projets. Je peux lui parler de plein de choses. Un ami, je peux me confier à lui. Si j'ai besoin d'un conseil, je peux aller vers mon ami. Mais il y a des choses que je dis à mon épouse et que je ne dirai pas à mon ami. Donc, ami, c'est un stade intermédiaire entre serviteur et épouse. C'est entre les deux. La Bible nous présente des hommes qui étaient amis de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit par exemple qu'Abraham fut appelé ami de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Moïse a une relation particulière avec Dieu. L'Éternel lui parle face à face, comme un homme parle à son ami. C'est ce que dit la Bible. Les disciples étaient amis de Jésus. Jésus lui-même le dit. Je vous appelle ami. Mais même s'ils avaient le niveau d'intimité d'amis avec Jésus, ces hommes-là n'avaient pas atteint la perfection dans la relation, la perfection dans l'intimité avec Jésus. Ils ne connaissaient pas tout de Dieu. Ils avaient chacun eu une grande révélation, de grandes révélations, mais ils n'avaient pas eu toute la révélation entière. Jésus dit à ses disciples, on va le lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, versets 12 et 13, Jean 16, 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a un avant et un après. Là, on est avant. Et la phrase qui suit, on est après. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il y a un avant et un après Pentecôte. Il y a un avant Saint-Esprit et un après Saint-Esprit. Avant Saint-Esprit, il y a des serviteurs et des amis de Dieu. Après la venue du Saint-Esprit, il y a l'épouse. Amen. Dans l'Ancien Testament, les hommes étaient serviteurs ou amis de Dieu. Amis de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le niveau le plus élevé d'intimité avec Dieu. C'est la dimension la plus élevée parce que lorsque la Pentecôte a eu lieu, les mêmes qui étaient serviteurs, les mêmes qui étaient amis, sont devenus épouses. Et Christ est devenu l'époux. Et il s'est révélé à eux pleinement à partir du moment où le Saint-Esprit est venu. Amen. Et nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, on peut se demander si nous avons cette dimension d'épouse dans notre relation avec Jésus. Est-ce que nous avons ce niveau d'intimité d'épouse et d'époux avec Jésus? Moïse, lui, n'avait pas le Saint-Esprit, mais il avait une très grande intimité avec Dieu. Une très grande intimité avec Dieu. Même peut-être plus grande que nous qui avons le Saint-Esprit. Nous qui avons le Saint-Esprit, nous devrions avoir cette relation d'épouse avec Jésus. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a une plus grande intimité que Moïse avait une intimité? C'est un défi pour chacun de nous. La deuxième dimension d'intimité, c'est, je dirais, l'intimité selon le tabernacle. Et nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 6 à 8. Hébreux 9, 6 à 8. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente deux parties dans le tabernacle. Et il y en a aussi une troisième, c'est le parvis. Le parvis, c'est l'extérieur, c'est ce qu'il y a autour du tabernacle, mais qui reste dans l'enceinte générale du tabernacle. Le parvis, c'est à l'extérieur. Le parvis, c'est une zone où on voit beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Le peuple vient sur le parvis. On y rencontre des hommes, on y rencontre des femmes. On peut y voir des animaux. Il y a beaucoup de vie, beaucoup d'agitation sur le parvis. Le parvis était à l'extérieur, le parvis était éclairé à la lumière du soleil toute la journée. Et puis il y a le lieu saint. Le lieu saint, c'est un espace réduit. On n'est plus à l'extérieur, on n'est plus sur le parvis. Le lieu saint, c'est un espace réduit, c'est un espace confiné. Et c'est un espace dans lequel il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de personnes, puisque seules certaines personnes sont autorisées à accéder au lieu saint. Ce sont les sacrificateurs. Les sacrificateurs rentrent tous les jours dans le lieu saint, pas toujours les mêmes sacrificateurs tous les jours, mais tous les jours, des sacrificateurs rentrent dans le lieu saint. Ils rentrent dans le lieu saint pourquoi ? Pour disposer les pains de proposition, pour s'occuper des parfums, pour arranger les lampes du chandelier, parce que le lieu saint était éclairé non par la lumière du jour, mais le lieu saint était éclairé par le chandelier à cette branche. Et puis enfin, on nous présente le lieu très saint. C'est le troisième niveau. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Le lieu très saint, c'est un endroit très particulier. C'est encore plus confiné que le lieu saint. Pourquoi ? Parce qu'une seule personne peut accéder au lieu très saint. Cette personne, c'est le souverain sacrificateur. Il ne peut entrer dans le lieu très saint qu'une fois dans l'année, une seule fois dans l'année, pour faire le sacrifice d'expiation pour le peuple. Et ce lieu très saint ne recevait pas la lumière du soleil. Il n'y avait pas non plus de chandelier. Le soleil éclaire le parvis, le chandelier éclaire le lieu saint, mais dans le lieu très saint, c'est Dieu lui-même qui, par sa présence et par sa gloire, éclaire le lieu très saint. C'est donc un endroit très particulier. Une grande foule sur le parvis, quelques personnes dans le lieu saint, une seule personne dans le lieu très saint. Et voilà qui nous révèle deux choses sur la nature de notre intimité avec Jésus. La première chose, c'est que plus tu t'approches du lieu très saint, plus tu t'approches de la présence de Dieu, moins la lumière du monde rayonne sur ta vie, et plus la présence de Dieu inonde ta vie. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que plus tu t'approches de Dieu, plus tu rentres dans le lieu très saint, plus tu es seul. Quand tu as une intimité de parvis, il y a beaucoup de monde autour de toi. Quand tu as une intimité de lieu saint, il y a quelques personnes autour de toi. Quand tu as une intimité de lieu très saint, tu es tout seul. Tu es tout seul avec Dieu. Ce soir, par exemple, dans cette réunion, on peut dire que nous avons une intimité de parvis, parce qu'on est tous ensemble. Nous sommes réunis tous ensemble. Et c'est une bonne intimité. On peut avoir une intimité de parvis. C'est une bonne intimité. C'est l'intimité dans laquelle tu es avec tes frères et sœurs. Tu partages dans la communion fraternelle. Tu loues Dieu. Tu adores Dieu. Tu entends la parole de Dieu. Ça reste une bonne intimité. Mais il y a plus. Il y a plus. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que lorsque vous êtes au niveau de l'intimité de parvis, est-ce que vous adorez Dieu comme vous adorez Dieu chez vous ? Est-ce que vous louez Dieu comme vous louez Dieu chez vous ? Est-ce que vous priez comme vous priez chez vous ? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu comme vous lisez la parole de Dieu chez vous ? Est-ce que tu as une intimité de parvis seulement, c'est-à-dire juste à l'église ? Ou est-ce que tu as une intimité chez toi ? Est-ce que tu as une intimité de dimanche matin ? Est-ce que tu as une intimité de mardi soir ? Ou est-ce que tu as une véritable intimité avec Jésus ? Si nous avons une grande intimité alors que nous sommes sur le parvis ou parmi la foule, une plus grande intimité que quand nous sommes chez nous, il y a un problème. C'est une intimité de parvis qui serait conditionnée par la foule. En fonction de l'endroit où je suis, en fonction des gens qui sont autour de moi, mon adoration, ma louange, ma prière varie. C'est le paramètre qui fait varier mon intimité avec Jésus. C'est une intimité qui n'est pas très profonde, c'est une intimité qui n'est pas très spirituelle. Et puis il y a l'intimité du lieu saint. Le lieu saint, tu as quitté la foule, tu n'es plus parmi les autres. Tu es passé à un niveau supérieur d'intimité. Il n'y a plus que quelques personnes autour de toi, quelques personnes comme toi qui servent Dieu, qui sont là pour servir Dieu. Donc tu partages avec ces personnes-là le service pour Dieu, l'amour du service pour Dieu. Tu as une vie d'église, tu sers dans l'église. Mais il est important de se poser cette question. Je sers qui ? Et je sers pourquoi ? Est-ce que je sers Dieu pour sa gloire ? Est-ce que je sers des hommes ? Est-ce que je me sers moi seul ? Est-ce que je sers par habitude, parce que je suis là depuis longtemps et que ça fait longtemps que je fais ça ? Ou toute autre raison ? Je crois que c'est important de se poser cette question-là, de savoir ce qu'on fait et de comprendre ce qu'on fait pour le Seigneur. Quand une personne a des motivations charnelles dans un service, à la longue, ça se voit. Ça se voit et ça peut poser des problèmes. Si tu es au niveau du lieu saint et que tu sers Dieu, sache que c'est une grâce. Sache que c'est un privilège. Sache que c'est un honneur pour toi de servir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es un privilégié. Et maintenant, sache qu'à ce niveau d'intimité, qui est celui du lieu saint, tu es juste à un état intermédiaire. Tu es entre le parvis et le lieu très saint. Quelle sera la prochaine étape pour toi ? Tu redescendras au parvis ? Tu monteras au lieu très saint ? Le lieu saint, c'est un moment important. c'est une étape intermédiaire. Il y a autre chose après. Et autre chose, je crois que c'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est monter. Comme il a dit à Jean, monte ici. Pour nous, c'est aussi monte, monte jusqu'au lieu très saint. Mais il y a une condition. Tu ne peux pas monter au lieu très saint si dans le lieu saint, dans ton service pour Dieu, tu n'es pas soumis. C'est une étape difficile parce qu'il faut se soumettre. Soumettre à Dieu, bien sûr, mais tu te soumets au responsable de ton service. Tu te soumets à ton frère, tu te soumets à ta sœur. C'est une étape importante. Tu sers pour Dieu. Tu donnes de ton temps pour Dieu. Tu obéis pour Dieu. Tu écoutes pour Dieu. Tu fais pour Dieu. Tu n'attends rien en retour. Tu n'attends rien en retour. Et si tu sers les hommes avant de servir Dieu, alors que tu es dans le lieu saint, il y a un risque, il y a un danger. C'est qu'à la longue, tu te fatigues. Servir les hommes, c'est fatigant. On peut le faire un peu avec du bon cœur. On ne peut pas le faire trop longtemps. Parce qu'on a aussi notre nature qui va reprendre le dessus. Et il y a un risque, si tu sers les hommes ou si tu sers pour toi avant de servir pour Dieu, à ce moment-là, c'est qu'avec le temps, tu te décourages et tu te retrouves sur le parvis. Et le troisième niveau, c'est celui du lieu très saint. Le lieu très saint. Là, tu es seul. Dans le lieu très saint, tu es seul. Tu es dans l'intimité avec Dieu. Tu es là avec Dieu, seul avec Dieu. Tu es là pour Dieu. Tu es là pour Dieu parce que personne ne te voit. Dans le lieu très saint, personne ne te voit. Personne ne t'observe. C'est le plus haut niveau d'intimité dans le tabernacle, mais pour y accéder, il y a une condition. Tu dois mourir à toi-même. Tu ne peux pas accéder au lieu très saint si tu n'es pas mort à toi-même. Ce n'est pas possible. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, donc on l'a dit une fois par an, la Bible dit qu'il entrait avec des charbons ardents et avec des parfums, avec des encens. Et il répandait de la fumée, comme ça, sur le tabernacle, sur le propitiatoire. Et pourquoi faisait-il cela ? Donc la fumée enveloppait le tabernacle, la fumée enveloppait le propitiatoire. Et en fait, cette fumée, c'était comme un voile qui était entre la présence de Dieu, entre la gloire de Dieu et le souverain sacrificateur. C'était comme un voile qui empêchait que le souverain sacrificateur soit en contact direct avec la présence de Dieu, avec la gloire de Dieu. Parce qu'il y avait un danger. Un homme vivant ne peut pas se tenir devant Dieu, devant la gloire de Dieu, parce qu'il risque de mourir. Sans protection, il risquait de mourir. Et avec Dieu, il y a une règle. C'est que la gloire est pour lui seul. Toute la gloire est pour Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. C'est pourquoi ce sont les morts seuls qui voient la gloire de Dieu. C'est pourquoi il faut mourir à soi-même pour voir la gloire de Dieu. Si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Moïse a désiré voir la gloire de Dieu. Moïse a demandé. Il a dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Éternel, fais-moi voir ta gloire. Et qu'a répondu Dieu ? Tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas la voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. C'était Moïse, un homme qui avait une grande relation avec Dieu, un homme que Dieu a utilisé puissamment. Et que va faire Dieu ? Dieu va placer Moïse dans un rocher. Il va le couvrir de sa main et il va passer. Et Moïse va avoir un aperçu ou une idée de ce qu'est la gloire de Dieu. Et il ne mourra pas. Son visage sera rayonnant, il devra cacher son visage. Parce que s'il avait vu toute la gloire de Dieu, il n'aurait pas pu vivre. Il serait mort. Dieu lui avait dit, l'homme ne peut me voir et vivre. Et Dieu a tenu parole. Moïse a vu la gloire de Dieu. Il l'a vu, mais plus tard. Sur la montagne de la Transfiguration, Moïse a vu la gloire de Dieu. Moïse se tenait là avec Élie, dans la présence de Jésus. Il parlait avec Jésus. Il a vu la gloire de Dieu, mais il était mort. Et pour atteindre le niveau le plus élevé d'intimité avec Jésus, ce lieu très saint, il faut mourir à soi-même. Tu dois mourir à ton orgueil, tu dois mourir à ta propre volonté. Parce que les choses que tu vois, les choses que tu connais quand tu vois la gloire de Dieu sont des choses qui peuvent te remplir d'orgueil. Jean a vu le trône de Dieu, Jean a vu tout ce qui se passait autour. Pourquoi ? Parce qu'il était mort à lui-même et parce que Dieu savait qu'il était capable de voir tout cela sans s'en enorgueillir. Nous, pour des toutes petites choses, des toutes petites grâces, on peut s'enorgueillir. Alors comment Dieu nous montrera-t-il sa gloire si nous nous enorgueillissons pour des petites choses, des petites grâces ? C'est pourquoi même Moïse a fait de grands miracles, Moïse a fait de grandes choses par la main de Dieu, mais il bégayait. Même s'il a ouvert la mer rouge en deux, il bégayait. Il était capable d'ouvrir la mer rouge en deux, mais il n'était pas capable de guérir son bégaiement. C'est ce que Dieu lui montrait en lui disant « Tu fais les choses par ma main, c'est par moi que tu fais ces choses-là ». Dieu révèle sa gloire uniquement à ceux qui sont morts à eux-mêmes. C'est le niveau du lieu très saint. C'est le stade où tes capacités humaines ne sont plus un obstacle entre toi et Dieu. Ne sont plus une séparation entre toi et Dieu. C'est ta volonté, ton intelligence, ton orgueil, ta connaissance. Tout ça, c'est derrière. Tout ça, c'est tombé. C'est quand tout cela a disparu que Dieu se révèle à toi et que Dieu te conduit dans son intimité. La troisième dimension d'intimité, c'est l'intimité selon les motivations. On a parlé de la position, on a parlé du tabernacle. La troisième dimension, c'est l'intimité selon les motivations. Et nous lisons dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20 et au verset 3, 2 Chroniques 20, 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Le roi Josaphat avait peur. Il avait peur de quoi ? Il avait peur des armées ennemies qui arrivaient et qui voulaient attaquer Jérusalem, détruire, s'emparer du royaume de Juda. Il avait peur. C'est pourquoi il a cherché la face de Dieu. Pas à cause de son amour pour Dieu, pas à cause de sa soif de Dieu, mais à cause de sa peur de mourir. Voilà quelle était la motivation de Josaphat, la peur. Il cherchait Dieu par peur. Et parfois, nous aussi, nous cherchons Dieu parce que nous avons peur. Nous avons peur de la mort, nous avons peur de l'avenir, nous avons peur de l'ennemi, nous avons peur de toutes sortes de choses. La peur, souvent, nous dicte notre conduite, mais il ne faut pas que la peur dicte notre relation avec Jésus, parce que ce n'est pas une bonne motivation. La parole de Dieu n'alimente pas la parole de Dieu alimente la foi. C'est tout le contraire. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous ayons peur de l'ennemi. Jésus est mort à la croix pour nous revêtir d'autorité, afin que nous fassions les œuvres du royaume de Dieu sur la terre. Voilà ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix. Je ne suis pas le gardien de ma vie. Jésus est le gardien de ma vie. Je n'aurai pas peur. Jésus est là. Jésus me garde. Jésus est tout puissant. Et parfois, nous sommes inquiets pour toutes sortes de choses. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Où je vais aller ? Qu'est-ce que je vais manger ? Comment je vais payer mes factures ? Tellement de choses. Il y a tellement de choses qui nous inquiètent. Mais je voudrais dire une chose, c'est que Jésus, justement, en mourant à la croix, a vaincu tout cela. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu la maladie. Jésus est venu pour abolir l'esclavage et briser toute chaîne. Voilà ce qu'a fait Jésus à la croix. C'est pourquoi nous savons que Jésus est plus grand que tout et c'est pourquoi nous devons rejeter tout ce qui tend à affaiblir ou à diminuer la puissance de l'œuvre de Jésus à la croix. Toute doctrine ou toute influence qui nous conduirait à avoir peur, nous devons rejeter tout cela au nom de Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de défaite. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a que de la victoire au nom de Jésus. Il n'y a que Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Si j'ai des problèmes, où est la croix ? Si je suis lié par mes problèmes, si mes problèmes sont plus grands que moi, où est la croix ? Où est Jésus dans ma vie ? Où est mon intimité avec Jésus ? Car si on regarde Satan à la lumière de la croix, il est dépouillé, il est vaincu, il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. C'est ce que Jésus t'a dit. Il est sous tes pieds. Tu marcheras sur lui et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il est écrit aussi, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres en Jésus. Nous sommes libres par le sang de Jésus. Nous sommes libres par l'œuvre de Jésus à la croix. Nous sommes libérés de la peur. Nous sommes libérés de l'esclavage. Nous sommes libérés de toutes ces choses-là. Nous avons vaincu tout cela avec Jésus à la croix. La peur ne peut pas influencer notre intimité avec Jésus. Ça ne peut pas être un paramètre qui fait que nous sommes plus ou moins proches de Jésus. Une autre motivation pour certains, c'est d'avoir une intimité parce qu'ils recherchent de bonnes choses de la part de Jésus. Des bénédictions, du succès, des récompenses. Ça peut être une motivation. Je vais vers Jésus parce que j'ai besoin de bénédictions matérielles. Voilà ce que je vais rechercher chez Jésus. C'est quand tu aimes Jésus plus pour ce qu'il peut te donner que pour ce qu'il est. C'est quand tu respectes une bonne conduite, par exemple, tu respectes un code de bonne conduite, une discipline, plus pour ta réputation, plus pour ce que les autres vont penser de toi que pour plaire à Jésus. Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 26. Jean 6, 26. Jésus parle à ses disciples. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Oh, Jésus parle à ses disciples. Vous ne me cherchez pas pour moi. Hein. Vous voulez les pains, vous voulez les poissons. Voilà pourquoi vous me cherchez. Ce n'est pas moi que vous cherchez. Vous voulez du pain et du poisson. Jésus lisait parfaitement dans le cœur de ses disciples. Il avait multiplié les pains et les poissons, non pas pour impressionner, non pas pour... Il l'avait fait parce que le peuple avait faim et qu'il était ému de compassion pour le peuple. Il l'avait fait aussi pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Il l'avait fait aussi pour le salut des âmes. Mais les disciples, ce qu'ils ont surtout aimé, c'est les pains et les poissons. Et après, ils cherchaient Jésus. Ils ne cherchaient pas le Jésus qui faisait les miracles, il cherchait le Jésus qui donnait des pains et des poissons. Et nous, qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi nous cherchons-nous Jésus? Qu'est-ce que nous faisons ici ce soir? Quand on agit par intérêt, quand on agit par objectif, il y a un risque, c'est que quand on atteint cet objectif, on considère qu'on est arrivé au bout et qu'ensuite on s'arrête. Si je cherche Jésus pour des pains, quand j'aurai les pains, je vais faire quoi après? Si je cherche Jésus pour les poissons, quand j'aurai les poissons, je vais faire quoi après? C'est le risque. Le risque, c'est de se donner de trop petits objectifs. Le bon conseil, c'est de, spirituellement, je parle de choses spirituelles, c'est de se donner des objectifs très, 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 très élevés dans notre intimité avec Jésus. Pas des petits objectifs, de très, 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 très grands objectifs que nous irons chercher avec lui. Ne recherchons pas trop de choses matérielles. Tu veux une voiture, quand tu auras la voiture, après tu feras quoi? Tu veux une maison, tu auras la maison, et après tu feras quoi? Tu veux un travail, tu vas avoir un travail, et après tu fais quoi? Tu veux faire des miracles, tu vas faire des miracles, et après, tu fais quoi après les miracles? On a tous connu des personnes qui ont reçu des bénédictions et qui ont abandonné la marche avec Jésus. On en connaît. C'est triste. Ce sont des personnes qui recherchent sa main et pas sa face. Et si tu es peut-être comme ça, que tu recherches Dieu par peur ou par intérêt, sache que tu peux lui demander de changer ton cœur. Tu peux invoquer son nom. Tu peux lui demander de te changer et il le fera. Si tu lui demandes et si tu pries sincèrement pour cela, il le fera. Nous lisons dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens, chapitre 5, 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Jésus, c'est l'intimité sans intérêt. Il nous aime inconditionnellement. Et c'est ce qu'il attend aussi, que nous l'aimions en retour. Pourquoi tu pries? Parce que j'aime Dieu. Pourquoi tu jeûnes? Parce que j'aime Dieu. Pourquoi tu loues? Parce que j'aime Dieu. Pourquoi tu adores? Parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu. Je fais parce que j'aime Dieu. C'est tout. Je n'ai pas d'autre motivation. Ma motivation, c'est l'amour. Quand je serai au bout de mes jours, moi j'espère voir mon Seigneur, celui que j'ai aimé tous les jours de ma vie, ici sur cette terre. J'espère le voir et entendre de sa bouche, c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà au bout de mes jours. Au bout de mes jours, je veux voir mon Jésus. Je veux voir Jésus parce que je l'aime. Je l'aime et je l'aime. Si tu as une relation d'amour avec Jésus, tu demeureras dans cette relation tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Parce que rien ne pourra te séparer de lui. L'amour de Jésus est indestructible. L'amour de Jésus est plus puissant que tout. L'amour de Jésus est plus puissant que toutes les dominations, que toutes les autorités. L'amour de Jésus est plus puissant que la puissance de l'ennemi. Infiniment plus puissant. Et pour terminer, Je voudrais dire que tout cela n'est possible que par le Saint-Esprit. On a vu tout à l'heure que Jésus fait la distinction entre avant et après le Saint-Esprit. Tu dois accepter le Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois l'accueillir. Tu dois le chercher et tu dois collaborer avec lui. Si c'est le cas, si tu collabores avec le Saint-Esprit, alors tu pourras atteindre cette intimité d'épouse. Tu pourras arriver à cette intimité du lieu très saint, à cet amour inconditionnel. Ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Jean avait une relation d'intimité, une relation très forte avec Jésus. Et on pouvait penser qu'il était déjà au sommet, disciple de Jésus. Mais voilà qu'il y a plus. Et voilà que la voix l'appelle et lui dit « Monte ici, il y a encore plus. Je t'ai révélé les sept églises, mais il y a plus que ça. Monte ici. » Il y a une dimension supérieure que peut-être Jean lui-même ne connaissait pas. Il avait déjà reçu beaucoup, mais il y avait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Si tu collabores avec le Saint-Esprit et si tu acceptes de monter plus haut, il te montrera plus, tu verras plus, il te révélera plus, car il a encore beaucoup d'autres choses en réserve pour toi. Quand tu grimpes au sommet d'une montagne, tu vois plus loin, tu vois plus loin. Plus tu es intime avec Dieu, plus il t'élève, plus il te parle, plus il te relève, plus il te montre. Il nous appelle toutes et tous à monter un jour. On est tous à un niveau d'intimité avec Jésus. Je ne sais pas lequel vous êtes. Je ne sais pas. Mais il y a forcément un niveau supérieur. Il y a forcément un niveau supérieur pour toi. Et je prie que ce soir ou cette nuit, le Saint-Esprit agisse dans vos vies, qu'il vienne agir dans vos vies et qu'il vous amène à un niveau supérieur. Une dimension supérieure de relation, une dimension supérieure d'intimité avec Jésus. C'est possible, il y a encore des choses en réserve. Jean n'imaginait même pas ce qu'il pouvait y avoir en plus de la révélation des sept églises. Il ne le soupçonnait même pas. L'Esprit lui a dit, monte ici, monte ici. Il était disposé, il n'était pas parti, il ne dormait pas. Il n'était pas parti à la pêche, il n'était pas parti en voyage. Il était resté là, il était disponible. Il écoutait la voix de son Seigneur. Amen. Je prie pour que ce soir, tu laisses cette dimension d'intimité où tu es actuellement, parce qu'il y en a une autre au-dessus. Il y en a une plus importante. Je prie pour que tu montes dans une dimension plus importante que celle que tu connais. Que Dieu vous bénisse abondamment.